Je vois deux questions, je vais tout de suite y répondre, au moins tâcher d'y répondre. La tentation, je ne sais pas si c'est une tentation, mais bon, pas bien. La tentation qu'ont certains de voir deux essais dans le Christ ne vient-elle pas de la distinction entre grâce d'union et grâce habituelle ? Distinction qui a pour but de nous faire comprendre l'assomption de la nature humaine, mais qui ne peut s'expliquer, qui ne peut s'appliquer au Christ considéré en lui-même. Je ne crois pas que ça vienne de là. Je crois que ça vient tout simplement de ce fait que l'attitude d'aujourd'hui par rapport au mystère du Christ, c'est de montrer que le Christ est parfaitement homme. Et comme on a un peu une perspective psychologique sur ce que c'est que la personne et la personnalité, on veut donc, dans cette ligne-là, montrer qu'il y a nécessairement un essai. Vous voyez ? C'est ce point de vue-là. Je crois que c'est plutôt une confusion entre le point de vue psychologique et le point de vue métaphysique. Vous voyez, il y a deux vies dans le Christ. Et ça ne veut pas dire qu'il y a deux essais. Alors, c'est très délicat, puisque pour nous, vivere est essai. Alors, puisqu'il y a deux vivere, il y a donc deux essais. Je crois que ça vient de là, moi, c'est ce qui m'a semblé toujours. C'est que on ne voit pas suffisamment que le mystère du Christ doit être vu dans la lumière du Verbe qui assume la nature humaine. Et nous ne pouvons pas saisir le mystère du Christ, j'allais dire, par l'homme. L'homme est totalement changé dans le Christ, tout en restant homme, mais son état est totalement différent. Et que si nous sommes dans une perspective de théologie scientifique, c'est bien évident que c'est par le mystère du Verbe qui assume la nature humaine que nous devons regarder le mystère du Christ, et non pas par rapport à l'homme. Et donc, le point de vue psychologique qui nous fait regarder avant tout le point de vue de l'homme nous conduit à cela. Il y a deux viverets, donc deux vies dans le Christ. Il y a donc, par le fait même, deux essais. Alors que si nous regardons dans la perspective de que prend saint Thomas, par le point de vue du Verbe de Dieu, qui assume la nature humaine, et donc qui fait que dans le Christ, il y a une personne. Il y a donc une subsistance. Et par le fait même, il y a un essai. Et cet essai divin fait que la nature humaine du Christ vit pleinement et totalement sa vie d'homme, sa vie humaine, mais dans une lumière qui est la lumière même du Verbe de Dieu. Elle subsiste dans le Verbe de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que c'est plutôt de ce côté-là que je le verrai. On le verra au bon moment, n'est-ce pas ? Donc, c'est simplement pour orienter, étant donné que c'est un des problèmes difficiles d'aujourd'hui, à l'intérieur des thomistes. Hein. À l'intérieur des thomistes, il y a ces deux demeures. Alors, il faut essayer de comprendre. À la question 8, article 1, ad primum, donc reprenons bien, saint Thomas nous dit. C'est la question dans laquelle nous sommes. Et la question 8, c'est justement la question de la grâce capitale du Christ. Donc, à la question 8, article 1, ad primum, saint Thomas nous dit « Le Christ cause en nous la grâce à la fois par le mérite et par une certaine efficience. » Je vous relis entièrement « Comme Dieu, le Christ peut, de sa propre autorité, donner la grâce » ou le Saint-Esprit, comme homme, il lui revient de le faire instrumentalement, car son humanité fut l'instrument de sa divinité, et ainsi ses actions, par la vertu de sa divinité, nous furent salutaires, causant en nous la grâce à la fois par le mérite, c'est-à-dire par l'amour, hein, comprenant toujours ça, par le point de vue de la charité, et par une certaine efficience. Saint Augustin nie que le Christ, comme homme, puisse nous communiquer d'autorité le Saint-Esprit, mais par mode instrumental, d'une façon ministérielle, les autres saints eux-mêmes peuvent communiquer le Saint-Esprit, puisqu'il est dit dans l'Épître aux Galates, celui qui vous confère l'Esprit. Il est évident qu'instrumentalement, nous pouvons communiquer l'Esprit Saint. Ben, tout le grand point de vue charismatique d'aujourd'hui, si vous voulez. Hein. Il faut faire attention. Hein. La communication de l'Esprit Saint est-elle charismatique ou est-elle de grâce sanctifiante? Je crois qu'on ne communique pas l'Esprit Saint charismatiquement. Mais on le communique par la grâce sanctifiante. Par la grâce sanctifiante, nous nous donnons mutuellement l'Esprit Saint quand nous nous aimons dans la charité. Quand je vais vers mon frère et que je considère qu'il est un envoyé de Dieu et que lui me considère comme un envoyé de Dieu pour lui, nous pouvons, si Dieu le veut, être instrument du don de l'Esprit Saint. Comme Marie à la visitation. Oui, et Marie, là, est modèle. Oui. Alors, il y a un effet charismatique dans le petit Jean-Baptiste. L'effet charismatique, c'est sûr, dans le petit Jean-Baptiste. Mais si Jean-Baptiste n'avait pas trembloté dans le sein de sa mère, n'est-ce pas, la réalité aurait pu exister sans l'effet charismatique. Là, il était parce qu'il fallait qu'il y ait un signe pour nous. Et donc, il peut y avoir très bien communication de l'Esprit Saint sans un effet charismatique. Oui.
C'est-à-dire, par exemple, une guérison qui implique à la fois une guérison intérieure, donc là, c'est un don du Saint-Esprit, et une guérison physique.
Oui.
Alors, on peut dire que celui qui est instrument au niveau charismatique, il est instrument uniquement de la guérison physique.
Oui, au point de vue charismatique, le charisme est visible. Quand c'est invisible, c'est jamais charismatique.
Donc la guérison intérieure qui accompagne la guérison extérieure...
Elle est là comme un signe. Elle est là comme un signe, et c'est elle qui est charismatique. Elle est là comme un signe d'une réalité invisible. Vous voyez, on voit ça quand Jésus pardonne. Tes péchés sont remis. Et puis que les autres disent, qu'est-ce qu'il fiche là? Il n'a pas le droit de faire ça. Alors Jésus, pour que vous compreniez, il guérit. Vous voyez? Alors, l'aspect charismatique est donné là comme un signe, pour qu'on puisse comprendre l'aspect beaucoup plus profond de l'instrumentalité de la communication de la grâce. Oui, alors ça peut être simultané ou ça peut être successif. Ça n'a pas d'importance, là. C'est le temps et l'éternité. La communication de la grâce est quelque chose d'éternel en nous. Le signe visible est dans le temps. Oui. Alors... Hein. Serait-il possible de préciser ce qu'entend saint Thomas par une certaine efficience afin de comprendre comment l'humanité du Christ concourt par sa grâce à produire en nos âmes la vie surnaturelle? Une certaine efficience. Hein. Saint Thomas dit « Per meritum et per efficaciam quam dam ». Mais quand saint Thomas dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas trop préciser. Hein. Alors... faut-il essayer de préciser par une certaine efficience, c'est-à-dire il est cause efficience d'une façon très particulière, puisqu'il est à la fois instrument et d'une certaine manière, le quasi, hein, et d'une certaine manière, il est modèle, tête, et donc cause principale. Alors, il n'est pas cause principale de la grâce, on ne peut pas le dire. Hein. Donc, il est instrument, mais un instrument d'une qualité unique. En raison du mystère de l'union hypostatique. En raison du mystère de l'union hypostatique, il est instrument d'une qualité unique. Et c'est pour ça qu'il dit quadam efficaciam. Il y a une espèce d'efficacité qui est unique en raison de ce mystère de l'union hypostatique. Et il est instrument d'une manière unique. Alors je crois qu'on pourrait, vous voyez, le comprendre par le fait que Jésus dit à ses apôtres, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Alors, il y a le point de vue de l'amitié, donc le point de vue de l'amour, qui joue. Le point de vue de l'amour, c'est per meritum. Tout ce que fait Jésus, il le fait comme ami, comme tête. Et donc, il le fait pour tous les membres. Toutes les actions du Christ sont à nous. Et tout ce que nous faisons de bien est au Christ. Oui, alors c'est là où il y a juste, et c'est ça le mystère du corps mystique, hein. il y a une espèce de lien dans l'ordre de la charité qui fait qu'entre le Christ et nous, il y a cette coopération constante dans l'ordre de la charité. Et cette coopération constante dans l'ordre de la charité fait cette unité. Et cette coopération fait que, dans l'ordre de la charité, il est cause propre. C'est bien évident. Et dans l'ordre de l'efficience, il est instrument. Mais cette instrumentalité est enveloppée de la charité. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Et c'est pour ça que c'est là où je crois qu'il faut être très, très attentif à bien comprendre, de ne pas dire simplement « Jésus est instrument de la grâce ». Il est plus. Parce que son instrumentalité est d'une nature tout à fait particulière. Formellement, il est bien instrument de la grâce, mais il l'est d'une manière imminente. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire, il l'est d'une manière imminente, c'est-à-dire qu'il l'est comme tête. Or, en tant que tête, il n'est pas instrument. Il est lié à chacun d'entre nous, et nous sommes des membres. Alors, il est tête en raison de la plénitude de grâce. Oui, alors c'est là où on devrait essayer de comprendre. Je comprends très bien qu'on voudrait préciser plus et arriver à quelque chose de plus, et il faudrait peut-être le faire. Alors ça serait quelque chose d'extrêmement intéressant à voir. Qui dit cause instrumentale implique toujours le dispositivé que Jean de Saint-Thomas a beaucoup développé. Qui dit cause instrumentale dit le dispositivé, dit la virtus qui vient de la cause principale. L'effet par la cause instrumentale est assimilé à la cause principale. C'est en ce sens-là que Jean Saint-Thomas dit cette chose très belle, que l'instrument comme tel regarde en premier lieu la cause principale et ne regarde l'effet qu'à travers la cause principale. Parce que l'effet n'est pas assimilé à la cause instrumentale, mais est assimilé à la cause principale. Donc la forme de l'effet, assimilée au niveau de la forme de l'effet ne provient pas de l'instrument, mais provient de la cause instrumentale. Donc quand il s'agit de la grâce, participation formelle à la nature divine. Donc la grâce nous assimile en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, à la très sainte Trinité, cause principale de la grâce. Il ne nous assimile pas, vous voyez, il ne nous assimile pas en premier lieu au Christ, mais à la très sainte Trinité, puisque Jésus agit instrumentalement en nous communiquant la grâce. Donc les faits nous assimilent à la cause principale. Mais cependant, cette cause instrumentale qui est le Christ, l'humanité sainte de Jésus, l'humanité sainte de Jésus est liée à la cause principale d'une manière tout à fait particulière grâce à l'union hypostatique, l'union personnelle. Il est uni, donc il est à l'intérieur de la cause principale. Il n'est pas extrinsèque. D'habitude, l'instrument est extérieur. Surtout quand il s'agit d'un porte-plume. N'est-ce pas ? Donc l'instrument est extérieur. Il vient s'ajouter de l'extérieur. Tandis que là, au contraire, c'est une instrumentalité qui est intime, qui est intrinsèque par l'union hypostatique. Donc qui fait que cet instrument a une situation unique ? C'est là où joue ce que Jean de Saint-Thomas dit, le dispositivé. C'est que, de fait, quand la cause principale se sert d'un instrument, l'effet est modifié en raison de l'instrument. Et l'effet a la marque de l'instrument. Alors, c'est ça qui nous fait comprendre ce que nous appelons grâce chrétienne. Notre grâce est une grâce chrétienne. Et notre grâce chrétienne nous lie à ce dispositivé de la cause instrumentale. Ce dispositivé a une qualité unique, puisque c'est Jésus, dans son humanité sainte, qui est uni personnellement à la cause principale. Ce dispositivé, c'est la plénitude de grâce. Dans l'ordre de la grâce, il est comme premier. Pour nous, il est comme premier. Nous ne sommes pas assimilés en premier lieu au Christ, nous sommes assimilés à la très sainte Trinité. C'est pour ça que la grâce fait de nous des enfants de Dieu, des fils de Dieu, mais il nous fait enfants de Dieu par le Fils premier, le Fils bien-aimé. Et donc c'est à travers l'humanité sainte du Christ, à travers la plénitude de grâce du Christ, que nous sommes enfants de Dieu. Et par le fait même que nous sommes enfants de Dieu, par l'humanité sainte du Christ, nous sommes en même temps membres du Christ. La grâce fait de nous membres du Christ. Et ça, c'est le caractère particulier de la grâce chrétienne qui nous lie, et qui nous lie au Christ comme membres du Christ. Comme amis. Comme un avec le Christ. Oui, alors c'est très délicat à préciser ce mode particulier de la conversation là, ce dispositivé qui permet d'être lié à la source principale d'une manière plus parfaite que s'il n'y avait pas l'instrument. Autrement dit, il y a deux manières de concevoir l'instrument. Et je crois que c'est par là qu'il faut essayer de comprendre. Il y a deux manières de concevoir l'instrument. Il y a l'instrument nécessaire à cause des imperfections de la cause principale. La cause principale a besoin de s'adapter grâce à l'instrument. Et il y a un instrument donné par surabondance pour que, de fait, la cause, l'effet soit donné dans une plénitude plus grande. La très sainte Trinité n'a pas besoin d'humanité sainte de Jésus pour nous communiquer la grâce. Donc ce n'est pas une déficience. C'est en raison, au contraire, d'un plus, pour que la grâce nous soit donnée plus pleinement et plus parfaitement, que le Père se sert, l'Esprit-Saint se sert, et le Verbe se sert de l'humanité sainte du Christ. Donc le dispositif est ici, c'est du côté de la surabondance. Et c'est bien ce qui caractérise le mystère de la grâce, le mode chrétien de la grâce nous unit à la plénitude de grâce du Christ. De sa plénitude, nous avons tous reçu. Et quand j'ai dit de sa plénitude, nous avons tous reçu, ça nous fait comprendre que par là, nous sommes assimilés au Christ. Et c'est du fait même qu'on est assimilé au Christ, là nous touchons un mode tout à fait particulier de cette causalité instrumentale, qui fait que le Christ est comme cause principale. Il est bête. Et c'est ça que veut dire le point de vue, il est bête. Il est bête en raison de sa grâce capitale, en raison de cette plénitude de grâce qui fait que l'instrumentalité de la causalité instrumentale là, pour le mystère de la grâce n'est pas du côté de la déficience. Donc le dispositivé est en vrai le plénitarié, c'est une plénitude, c'est en raison d'une plénitude. Et c'est ça, je crois, qu'il faut essayer de comprendre. Vous voyez, il faut avoir une notion analogique de la causalité instrumentale. Et il n'y a pas du tout une notion univoque. Si vous avez une notion univoque de la causalité instrumentale, ça ne va plus du tout. Et vous ne comprenez plus rien du tout. Tandis que si vous avez une notion analogique de la causalité instrumentale, vous pouvez très bien comprendre que la causalité instrumentale joue de deux manières totalement différentes. C'est du reste, je crois, toute médiation. C'est la même chose. Puisque toute médiation implique une instrumentalité. Alors, il y a des médiations qui sont du côté de la déficience, et il y a des médiations qui sont du côté de la plénitude. Et donc c'est pour qu'il y ait en quelque sorte une grâce, un effet plus parfait, la communication de la grâce est faite dans une plénitude plus grande grâce à cet instrument qu'est le Christ. Vous voyez, c'est comme ça, je crois qu'on pourrait essayer d'expliciter un peu cette cette certaine efficience. C'est du côté de la plénitude. Alors, nous continuons pour terminer cette grande question de la grâce capitale du Christ. Revient-il en propre au Christ d'être tête de l'Église ? Cause instrumentale, tête. Et réfléchissez bien sur les deux. Hein. Cause instrumentale, tête. Qui dit tête dit cause principale, qui dit cause instrumentale dit l'inverse. Et ce n'est pas contradictoire. Mais il faut toujours les deux, si nous voulons comprendre ce qu'est le mystère du Christ. Vous voyez, les deux, j'allais dire les deux analogies qui luttent l'une contre elle, n'est-ce pas, pour exiger d'aller plus loin. Vous dites que le Christ est tête, et vous dites que le Christ est cause instrumentale. Et il est les deux. Et ceci nous permet de dépasser ce que nous aurions, nous, comme schéma univoque. Qui dit tête, on dirait, mais oui. L'Église, c'est l'Église du Christ. Alors, cause principale, non. Jésus n'est pas cause principale. Il nous a introduits dans la très sainte Trinité. Et on passe par-dessus la tête. C'est sûr. Parce que, de fait, on est introduit dans la très sainte Trinité, immédiatement. Mais ça, c'est l'humilité de la cause principale, de la cause instrumentale. C'est la pauvreté de la cause instrumentale. Et c'est la pauvreté radicale de l'humanité sainte du Christ. Qui n'a qu'un seul désir, c'est de nous présenter au Père, comme fils bien-aimé. Qui n'a qu'un seul désir, c'est de nous mettre sous la mouvance de l'Esprit Saint. Qui n'a qu'un seul désir, c'est de nous faire de nous des enfants de Dieu. Adoptifs, mais réels. Oui, alors vous avez la même chose, adoptifs, mais réels. Et ça, je crois que c'est très important, parce que très facilement, quand on parle du corps mystique, et quand on parle de Jésus, tête du corps mystique, au bout d'un certain temps, on ne voit plus que ça. Alors, on a un christianisme qui n'est plus trinitaire. On a une vision de l'Église qui est chrétienne, mais qui n'est plus trinitaire. Or, on ne peut pas voir l'Église en dehors de la très sainte Trinité. Et tout l'évangile de Saint Jean est là pour nous le rappeler. Hein. Parce que ça, c'est vraiment l'aspect trinitaire qui est mis en pleine lumière. Mais il ne faut pas, à cause de ça, télescoper le rôle de cette cause instrumentale. Parce que cette cause instrumentale est modèle, est tête. Il est premier. Et donc, il nous donne une modalité particulière pour vivre notre grâce chrétienne. Nous vivons notre grâce chrétienne comme membre du Christ. Nous vivons notre grâce chrétienne comme épouse du Christ. Nous vivons notre grâce chrétienne comme liée au Christ d'une manière substantielle, pas accidentelle, substantielle. Notre vie, c'est la vie du Christ. Si notre vie, c'est la vie du Christ, pour moi, vivre, c'est le Christ. Ma vie n'est plus la mienne, mais c'est celle de Jésus. Alors, vivre cette vie, c'est justement cela qui nous fait comprendre l'aspect chrétien. Vous voyez, être et vie. Alors là, vous retrouvez toujours, au fond, vous retrouvez tout le temps ces deux aspects, et qui seraient toujours importants à bien voir. Quand nous regardons le mystère de la grâce, nous regardons l'aspect antitatif, l'habitus antitatif, et nous regardons la grâce comme participation formelle de la nature divine. Les deux aspects. Du côté entitatif, le Christ instrument. Du côté participation formelle, il est tête. Oui, vous retrouvez les deux. Parce que c'est du côté de la finalité. C'est l'aspect le plus formel, le plus profond, si vous voulez. Alors, l'aspect entitatif, c'est l'aspect le plus enfin, de l'être comme tel. Alors, cause instrumentale de la grâce, c'est bien évident. Il n'est pas cause principale de la grâce. L'humanité sainte du Christ n'est pas cause principale. Mais cette causalité instrumentale a ceci de particulier qu'il est tête. Et s'il est tête, nous sommes assimilés à la tête. Puisque nous sommes liés à la tête. Et notre grâce chrétienne nous lie à la tête d'une façon telle, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Grâce, c'est extraordinaire. Le seul instrument qui peut dire ça. Si vous êtes cause instrumentale de la grâce et que vous dites à quelqu'un « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », bien évident, hein. Je vous ai sauvé, vous êtes mon enfant spirituellement, je déclare qu'à partir de maintenant, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. Aucune cause instrumentale ne peut dire ça. Et Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et sans l'humanité sainte du Christ, nous ne pouvons rien faire. Ça fait comprendre Thérèse d'Avila qui dit « Quand j'ai oublié l'humanité sainte du Christ, j'ai perdu du temps. » Je suis parti dans la mystique un peu, vous voyez, qui oublie l'humanité sainte du Christ. Parce qu'on voudrait être uniquement trinitaire. Ah non, vous êtes lié au Christ. Vous êtes trinitaire dans le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Et si c'est en lui, vous êtes trinitaire, toujours, toujours en étant lié au Christ. Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est les deux aspects, vous voyez, qui sont... C'est intéressant parce que, au point de vue spiritualité, vous voyez, vous retrouveriez la mise d'accent sur la Trinité, la mise d'accent sur le Christ. L'école française, la mise d'accent sur le Christ. La grande tradition, Saint Jean de la Croix, l'accent sur la Trinité. Il n'y a pas d'opposition, hein, ne disons pas, à l'intérieur de l'Église, il y a des chrétiens et des trinitaires. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'ils sont, ils sont chrétiens et, par le fait même, reliés à la très sainte Trinité. Mais tout de suite, hein, dès qu'on est en face de spiritualité et non plus en face du point de vue objectif de la théologie, on met un accent davantage sur certains aspects. Et l'école française, c'est évident, c'est l'accent sur l'humanité sainte de Jésus. C'est le côté très beau, mais qui quelquefois fera tomber dans quelque chose où il manquera un tout petit peu d'un aspect de dépassement pour découvrir la très sainte Trinité. Alors, on lit dans l'Épître aux Colossiens. On lit dans l'Épître aux Colossiens. Il est la tête de l'Église, par l'influence de laquelle tout le corps qui se nourrit et tient ensemble grâce aux jointures et ligaments réalise sa divine croissance. Or cela convient seulement au Christ, le Christ seul est donc tête de l'Église. Alors voici le texte de saint Thomas. La tête exerce son influence sur les membres d'une double manière. Tout d'abord par mode d'influx intérieur, en communiquant par sa vertu le mouvement et la sensibilité aux autres membres. Puis par manière de gouvernement extérieur. C'est en effet par la vue et les autres sens qui ont leur siège dans la tête que l'homme se dirige dans son activité extérieure. Or, l'influx intérieur de la grâce ne nous vient que du Christ seul, dont l'humanité, du fait de son union à la divinité, possède la vertu de justifier. Mais l'influence exercée sur les membres de l'Église par mode de gouvernement extérieur peut appartenir à d'autres qu'au Christ. Et c'est en ce sens que certains sont appelés tête de l'Église, selon cette parole du livre d'Amos. Les princes sont les têtes des peuples. Il faut cependant noter ces différences avec le Christ. En premier lieu, le Christ est tête de tous ceux qui appartiennent à l'Église. En quelque lieu, temps et aux situations qu'il se trouve. Il y a une tête de l'Église de France. Mais il n'y a qu'une tête de l'Église tout court. Et il y a un vicaire de la tête pour toute l'Église. Oui, c'est très intéressant de voir ça. Hein. Surtout aujourd'hui. Les princes sont les têtes des peuples. Il faut cependant noter ces différences avec le Christ. En premier lieu, le Christ est tête de tous ceux qui appartiennent à l'Église, en quelque lieu, temps ou situation qu'il se trouve. Les autres hommes ne sont têtes que par rapport à certains lieux déterminés, comme les évêques pour leurs églises, ou par rapport à un temps déterminé, comme le pape qui est tête de toute l'Église durant le temps de son pontificat, et par rapport enfin à une situation déterminée, à savoir l'état de pèlerin terrestre. En second lieu, le Christ est tête de l'Église par sa propre puissance et sa propre autorité, tandis que les autres ne sont têtes que parce qu'ils tiennent la place du Christ, selon cette parole de la deuxième épître aux Corinthiens, « Si j'ai donné quelque chose, c'est pour vous, et en la personne du Christ. » Et encore, « C'est pour le Christ que nous faisons fonction d'ambassadeur, Dieu lui-même exhortant par nous. » C'est assez facile à comprendre, c'est que de fait, le Christ seul est tête de l'Église, dans le sens où saint Thomas souligne la double influence, et c'est ça au point de vue théologique qui est intéressant à voir. Caput in alia membra influit duplicitaire. Donc le double influx du Christ comme tête. L'influx par mode intérieur, en communiquant par sa vertu le mouvement et la sensibilité aux autres membres, alors là, ça ne peut pas être participé. Et puis, l'influx extérieur du point de vue du gouvernement. Bon, je crois que ça n'a pas beaucoup de difficultés. Prenons tout de suite, si vous voulez, la troisième objection. Du fait de sa primauté sur l'Église, c'est l'objection, hein ? Troisième objection. Du fait de sa primauté sur l'Église, le Christ n'est pas seulement appelé tête, mais aussi pasteur et fondement de l'Église. Or, le Christ ne s'est pas réservé le titre de pasteur, puisqu'il est dit dans la première épître de saint Jean, « Quand le prince des pasteurs paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire. » Il ne s'est pas davantage réservé le titre de fondement, puisque nous lisons dans l'Apocalypse, « La muraille de la ville a 12 fondements. » On ne voit donc pas pourquoi le Christ serait réservé le titre de tête. Si la tête est fondement, oui, mais la tête n'est pas le fondement, normalement. Alors vous voyez comment saint Thomas répond. Saint Augustin, si les chefs de l'Église sont pasteurs, comment y a-t-il un seul pasteur? Sinon, parce que tous sont membres d'un pasteur unique. Ainsi, donnons-nous à d'autres que le Christ le titre de fondement et de tête, parce qu'ils sont les membres d'une tête et d'un fondement unique. Et cependant, comme l'écrit encore saint Augustin, s'il a donné à ses membres d'être pasteurs, il s'est réservé à lui seul d'être la porte, car la porte signifie l'autorité principale. C'est par la porte, en effet, que tous entrent dans la maison. Et c'est par le Christ seul que nous avons accès à cette grâce en laquelle nous demeurons. Au contraire, les autres noms peuvent se rapporter non seulement à une autorité principale, mais aussi à une autorité secondaire. Ça, c'est facile à comprendre. Hein. Ce qui, je crois, est important de comprendre, c'est que l'autorité principale implique un influx interne. C'est toute la question, vous voyez, de la participation d'autorité. C'est ces grosses questions d'aujourd'hui. Dans quelle mesure pourrons-nous participer l'autorité ? La participation d'autorité. Alors, est-ce que là, on pourrait trouver autorité et pouvoir ? Vous voyez, dans le gouvernement. L'autorité est quelque chose de plus intérieur. Pouvoir peut-être plus participer. L'autorité est toujours personnelle. Elle nous relie à la fin. Et elle fait de nous des serviteurs. Le pouvoir est plus extérieur. Il est plus de l'ordre de l'efficacité. Alors, y a-t-il quelque chose comme ça ici, hein ? Ce serait intéressant. C'est pas la distinction que prend saint Thomas. Mais c'est intéressant de se poser la question. Parce que dans cette réponse dernière, on touche ça. Vous voyez, saint Thomas ne reprend pas exactement ce qu'il avait dit dans le corps de l'article. Il prend quelque chose d'autre en voyant ce point de vue-là. Au contraire, les autres noms peuvent se rapporter non seulement à une autorité principale, mais aussi à une autorité secondaire. Le point de vue d'être tête, d'être chef, d'être fondement. Mais l'influx, alors l'influx est quelque chose d'unique. C'est quelque chose de plus intérieur. Article 7. Le diable est-il tête de tous les méchants ? Pouvons-nous comprendre ça ? Y a-t-il du côté du démon une imitation à la tête ? Il est sûr que le démon veut être père. Votre père, c'est le diable. Jésus dit ça. Alors, dans quel sens ? Au sujet de cette parole de Job, que sa mémoire soit effacée de la terre, nous lisons dans la glose, ce vœu s'applique à tout méchant pour qu'il fasse retour à sa tête, c'est-à-dire au diable. Et voici le texte, le corps de l'article. Comme il a été dit précédemment, la tête non seulement exerce une influence intérieure sur les membres, mais encore les gouverne extérieurement en dirigeant leur activité vers une fin. Diriger leur activité vers une fin, c'est l'autorité. On peut donc donner à quelqu'un le nom de tête par rapport à une multitude, soit dans les deux sens d'influx intérieur et de gouvernement extérieur, et c'est ce qui arrive pour le Christ quand nous disons qu'il est tête de l'Église. Soit seulement au sens de gouvernement extérieur, en ce sens, tout prince ou prélat est tête de la multitude qui lui est soumise. L'évêque est tête de son église, de son diocèse. C'est également de cette manière que le diable est tête de tous les méchants, car ainsi qu'il est dit dans Job, il est le roi de tous les fils d'orgueil. Or, il appartient au gouvernement de conduire à sa propre fin tous ceux qu'il gouverne. La fin du diable, c'est que la créature rationnelle se détourne de Dieu. C'est pourquoi, dès le principe, il cherche à détourner l'homme de l'obéissance aux préceptes divins. D'autre part, l'aversion de Dieu a raison de fin quand elle est désirée par le libre arbitre. Selon cette parole de Jérémie, « Depuis longtemps tu as brisé le joug, tu as rompu tes liens et tu as dit « Je ne servirai pas ». C'est le non serviam. « Seculo confregisti jungum, rupisti vincula, dixistis, non serviam ». Alors c'est bien de voir les trois aspects, hein, qui... Depuis longtemps, tu as brisé le joug, tu as rompu tes liens et tu as dit « je ne servirai pas ». Quand donc des hommes, en commettant le péché, sont conduits à cette fin, ils tombent sous le régime et le gouvernement du diable. Et celui-ci peut être appelé leur tête. Toujours la même chose, c'est du côté du gouvernement. Tu vois ? Comprenez bien là, ce rôle particulier de la tête, l'influx intérieur. Le démon ne gouverne que de l'extérieur. Alors c'est là où on pourrait trouver le pouvoir. Il n'y a pas d'autorité. Alors, vous voyez, il y a une distinction que nous pourrions faire que saint Thomas ne fait pas là. Il l'a fait, mais il ne la précise pas. Et nous devrions la préciser, je crois, aujourd'hui. Non ? C'est toujours très important. Le démon n'a aucune autorité sur nous. C'est pour ça que quand on se laisse prendre au pied du démon, on n'obéit pas. On transgresse le sens de Dieu. Mais le démon a un pouvoir. Alors on peut appeler tête d'un gouvernement celui qui a un pouvoir sans avoir aucune autorité. Vous voyez le nombre de chefs d'État aujourd'hui qui sont à la tête d'un État avec un pouvoir sans avoir aucune autorité. On n'a d'autorité que quand on conduit quelqu'un à sa fin. Et quand on l'aide à atteindre sa fin. Alors là, on a autorité. On exerce autorité. Quand au contraire, on devient un obstacle à atteindre sa fin, c'est le pouvoir. C'est un principe très très net, qui est très beau. Alors évidemment, vous voyez, donc saint Thomas fait une triple distinction. La tête, un flux intérieur, un flux extérieur, autorité qui gouverne et pouvoir. Donc, la tête, elle est prise selon trois aspects très différents. Jésus est tête d'une façon unique par l'influx intérieur. L'influx extérieur et l'autorité peut être participé. Et il est participé. Et le pouvoir, ce n'est pas une participation d'autorité. C'est du côté de l'efficacité pure. Donc 3 degrés. Mais le diable n'exerce pas une influence intérieure sur l'âme rationnelle, mais par ses suggestions, il induit au mal. Ça, c'est vraiment la tentation. Il induit au mal. Le gouverneur ne pousse pas chacun de ses sujets à obéir à sa volonté, mais à tous, il notifie par un signe sa volonté. Les uns se trouvent excités à la suivre, les autres le font de leur propre mouvement. Ainsi arrive-t-il que les soldats suivent le fanion de leur chef, ça c'est pour les scouts, sans qu'il soit nécessaire de les y pousser. Le diable a péché le premier, car il est écrit dans la première épître de saint Jean qu'il pêche dès le commencement. Et son péché fut proposé à tous les autres comme un exemple à suivre. Certains l'imitèrent parce qu'ils y furent poussés par lui, d'autres le firent de leur propre mouvement et sans aucune suggestion de sa part. En ce sens, le diable est tête de tous les méchants parce qu'ils suivent son exemple. Selon cette parole de la sagesse, c'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde. Cela limite qui lui appartiennent. Donc ça revient au même, c'est essayer d'exprimer la causalité exemplaire. Vous voyez. Alors c'est aussi quelque chose de particulier, peut-être, qu'il faudrait distinguer. Il y a une causalité exemplaire. La causalité exemplaire est-elle le pouvoir ? Ça, c'est très net ici. Hein. Donc il y a une distinction que nous pouvons ajouter. Le point de vue de l'influx externe, par l'autorité, c'est la finalité. On peut l'influx extérieur par la causalité exemplaire, par mode d'exemple. Et le simple pouvoir. Alors, C'est à l'intérieur du pouvoir la causalité exemplaire. Vous exercez le pouvoir d'une manière. Par la causalité exemplaire ou en vous poussant par derrière. Hein. Si tu ne fais pas ça, garde la prison. C'est la crainte. La causalité exemplaire, c'est pas la crainte, c'est la séduction. Donc, double manière d'exercer le pouvoir. Par mode de séduction, causalité exemplaire, regardez comme je suis bien. Je monte de temps en temps contre ça. J'ai le pouvoir sur vous. Tous font exactement ce que je demande. Vous avez des exemplaires. Le monde s'est parfaitement réussi. Alors que de l'autre côté, c'est complètement raté. La critique qu'on peut on joue le rôle du démon en faisant ça. Regardez. Et, vous savez, à l'intérieur d'une famille, on voit les défauts. À l'extérieur d'une famille, on voit les qualités. C'est très cool. Et alors, on fait la zizanie. Diviser pour régner. Alors, on montre comme ça, c'est la grande tactique, hein. Une tactique qu'il faut tout de suite dépister. La division n'est pas de Dieu. Elle vient du pouvoir. L'autorité fait l'unité. Et le pouvoir divise. Alors, il divise de deux manières, par la causalité exemplaire et par la crainte. Séduction et tremblement. La bête de la terre et la bête de la mer. La bête de la mer, selon l'Apocalypse, c'est la séduction. Et la bête de la terre, c'est le tremblement, c'est la crainte. Alors,